Il faut remonter très très loin dans le temps. En 988, l'Ukraine, avec l'accord de Byzance, devient officiellement chrétienne. Pendant près de deux siècles, l'orthodoxie est la religion exclusive du pays, jusqu'à l'annexion des zones occidentales ukrainiennes par le royaume polonais-lituanien au XIIe siècle. Le catholicisme fait alors son apparition et s'impose. En 1596, l'Église gréco-catholique est instituée. Elle reconnaît la primauté et les enseignements de Rome, mais reste de rite byzantin, très proche donc de celui des orthodoxes, gardant son calendrier de fête ou autorisant notamment le mariage des séminaristes avant l'ordination. Monseigneur Brézard est le directeur général de l'Œuvre d'Orient, un mouvement de chrétiens français au service des chrétiens d'Orient.
Ce n'est pas qu'un rite. Le rite exprime une tradition. Et la tradition s'inscrit profondément dans la culture de l'Église grecque, d'une part, et du peuple slave, de l'autre. Donc là, c'est une ferveur slave. Ce sont des églises qui ont une forte emprise populaire, qui se sont toujours adaptées liturgiquement aux besoins du peuple, qui ont fait à la Mère de Dieu une énorme place, et ce qui donne un caractère très humain à la piété, à la ferveur et à la spiritualité de ces églises-là.
Une ferveur qui a su résister à l'histoire contemporaine et en particulier à la domination soviétique où l'athéisme était la règle. Le catholicisme de rite latin ou oriental a été purement et simplement supprimé par Staline. Les catholiques obligés de vivre dans la clandestinité, dans l'église des catacombes. Monseigneur Roger Yaroslav Salevitch appartient à la très importante diaspora des gréco-catholiques ukrainien ayant fui le communisme. Il est vicaire général de l'exarchat ukrainien pour la France, le Benelux et la Belgique.
Aucun de nos évêques n'est passé à l'orthodoxie. Ils ont toujours travaillé et c'est pour ça que la majeure partie de nos évêques ont été envoyés en Sibérie, entre autres le métropolite Joseph Slipei, lequel est resté donc 18 ans en déportation en Sibérie. Les prêtres n'avaient pas le droit de célébrer dans les églises. Officiellement, ils n'étaient pas reconnus comme prêtres devant les autorités. Alors, ils avaient divers métiers. Soit ils étaient peintres ou ils faisaient quelque chose d'autre. Puis, ils allaient dans les familles et là, ils célébraient la liturgie clandestinement. Ils baptisaient les enfants. Ils apprenaient du catéchisme aussi aux enfants. Comme vous le savez, chez nous, les gréco-catholiques, les prêtres sont mariés. Alors, beaucoup, ils sont passés à l'orthodoxie, si vous voulez, officiellement, mais ils étaient restés dans leur cœur gréco-catholique. Il y avait dans les 3, 4, 5 millions donc, de gens qui étaient dans les catacombes. Et puis après, quand l'Ukraine a été libérée, et c'était le début d'un nouveau printemps.
Avec tout à reconstruire, car à la chute de l'Empire soviétique, le clergé est peu nombreux, les prêtres ou évêques ne se connaissent pas entre eux et les structures culturelles quasi inexistantes, Monseigneur Salevitch.
Actuellement, donc, il y a dans les 6 millions de fidèles en Ukraine et on a donc de nouveau tout un clergé qui est revenu. Donc, on a un archevêque majeur, deux archiprêtrés, 8 éparchies. Nous avons 3 grands séminaires, donc, à Lviv, Ternopil, et puis à Ivano-Frankivsk, où il y a actuellement plus ou moins dans chaque séminaire, dans les 200-250 séminaristes. Vous avez des paroisses en Ukraine où, bien tous les dimanches, il y a 5, 10, 15 baptêmes.
L'église gréco-ukrainienne est donc renée de ses cendres. Aujourd'hui encore, elle profite de ce nouvel élan, même si un certain essoufflement est perceptible. Alors, à qui la faute? Au sécularisme porté par le vent d'Ouest, Monseigneur Brézard de l'Œuvre d'Orient.
On sent bien qu'il y a une espèce de neutralité spirituelle qui provient globalement de l'Occident, sans qu'il y ait des missionnaires de la sécularisation. Mais enfin, c'est une sorte d'avachissement de la pensée, de l'art de vivre. Et globalement, le pays vit d'une manière plus confortable avec un matérialisme pratique qui va de pair. Alors c'est, on sent les tendances, on le sent au recrutement des séminaristes. Autrefois, on recevait un séminariste sur quatre. Aujourd'hui, il y a une demande, 1,2 d'entrée au séminaire pour une place. Le défi après la sécularisation, c'est l'union, parce que cinq églises principales dans un pays comme l'Ukraine, c'est dire aussi que derrière, la population est très divisée.
L'Ukraine compte en effet cinq principales églises, la catholique romaine, la gréco-catholique, mais aussi trois églises orthodoxes, une dépendante du patriarcat de Moscou, une église autocéphale ukrainienne et une dissidente. Pour Mgr Salevitch, la pleine unité entre les chrétiens passe d'abord par une union entre orthodoxes.
Il y a un problème, c'est plutôt avec l'église orthodoxe qui est rattachée à Moscou, car beaucoup d'Ukrainiens voudraient qu'il n'y ait qu'une église orthodoxe ukrainienne. Jusqu'à maintenant, bon, Moscou imposait même la langue, le slavon, le russe, vous voyez, pas question de célébrer en ukrainien. Moi, je dirais de mon côté qu'il y a aussi un côté de l'Empire. Hein. L'Union soviétique s'est désagrégée, mais la Russie voudrait toujours avoir le pouvoir dans le monde entier. Bien que je pense que maintenant, avec l'élection du nouveau patriarche à Moscou, je pense qu'il y aura certaines avancées dans cette union. L'église orthodoxe qui est rattachée à Moscou, bon, il y a beaucoup de fidèles, parce qu'en Ukraine, il y a beaucoup de fidèles qui sont russes, orthodoxes russes. Il faut qu'ils soient respectés. Aussi bien, donc, de l'autre côté, il faut qu'ils respectent aussi l'église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Kiev et puis aussi l'église gréco-catholique.
Après un passé soviétique toujours douloureux, l'apprentissage ne sera pas facile. En Ukraine, les tensions entre populations pro-russes et populations pro-européennes sont encore des plus vives. L'unité des chrétiens permettra-t-elle l'unité des Ukrainiens ? Une affaire à suivre.